Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, podcast numéro 76, un podcast dédié à la plateforme, avec une vraie question. La plateforme est-elle en mutation ou en véritable disparition? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Et pour cela, eh bien, je suis entouré de Julo, Angel, Raan, Caf, mais aussi Traz qui nous fait l'honneur de sa présence. Ça fait plaisir. Ça va bien, Traz?
Ouais, ça va, et toi?
Bah, ça va super parce qu'effectivement il y a énormément de choses à dire sur cette thématique de la plateforme qui mine de rien revient avec Banjo-Kazooie dont il y a eu le test, oui, qui arrive il y a quelques semaines. On pourrait se poser, oui, la question à savoir si Mirror's Edge fait partie aussi d'un jeu de plateforme ou une évolution de la plateforme. En tout cas, ça nous a paru important de se poser la question. Tomb Raider là, qui arrive cette semaine aussi, n'est-ce pas l'évolution finale de ce qu'est la plateforme? Autant de questions qu'on pourra se poser. Oui,
Et surtout, depuis Super Mario Galaxy, qui est, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, un vrai jeu de plateforme, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu juste avant? Finalement, est-ce qu'il y en a eu vraiment sur cette génération?
Exactement.
La génération d'avant.
Et Angel le souligne à juste titre, Sonic, le nouveau Sonic qui arrive aussi dans quelques semaines.
Sonic Unleashed,
voilà. Le retour de la plateforme. Ou est-ce que c'est finalement une plateforme très différente? Est-ce qu'on peut l'appeler vraiment plateforme ou pas? Eh bien, on va parler de tout ça ensemble dans ce podcast numéro 76 sur Gameblog.fr. Mais avant cela, avant de rentrer dans ce débat, eh bien, on va faire bien sûr un tour d'horizon de la plateforme, définition, historique. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire et citer aussi les grands noms qui ont fait le succès de ce genre, de Super Mario à Sonic, en passant par Rayman, Crash Bandicoot, Yoshi, Sly Raccoon, Pandemonium, Megaman, Kirby, enfin bon, j'en cite, mais bien sûr, il y en a tant d'autres. Alors, messieurs, là je me tourne vers Traz, est-ce qu'on peut commencer par une petite définition du genre plateforme? Quels sont ses fondamentaux?
Alors, tu veux que je te donne la définition que j'ai trouvée sur le net, c'est ça, exactement?
La définition joueur, ce qu'on ressent vraiment.
Eh bien, je ne sais pas, mais...
Ok, moi j'en ai une.
Voilà, alors,
vas-y. Pour moi, un jeu de plateforme, c'est un jeu qui est avant tout basé sur l'habileté du joueur, mm-hmm, à franchir un certain nombre d'obstacles, que ce, mm-hmm, soit des ennemis ou les décors.
Bon, on sent les gens qui ont un peu plus d'expérience des podcasts, mais ça va se redéter,
t'inquiète. Ça, exactement.
Mais c'est une définition, il y en a
bien sûr
un milliard d'autres.
Donc... Moi, j'en ai une que j'aimerais vous proposer, c'est effectivement l'habileté, c'est finalement c'est essayer d'éviter les éléments, les obstacles en mouvement ou pas, la science du timing aussi,
oui,
qui sont autant d'éléments très importants, constitutifs d'un jeu de plateforme. Alors justement, si on part un petit peu de cette base sur laquelle on est à peu près tous d'accord,
ok, ouais,
hein, voilà.
Je suis d'accord.
J'ai envie de dire qui ne dit mot consent. Partons un petit peu historique. Et là, il y a un vaste débat. Qui est le premier jeu de plateforme? Il y en a finalement en fait trois qui se battent un petit peu pour cette paternité. On pourrait commencer, Julo, en 78 avec un certain Frogs.
Voilà, Frogs, donc à ne pas confondre avec Frogger, il ne s'agit, mm-hmm, pas de faire traverser des grenouilles, mais de leur faire attraper des papillons et des mouches, des choses comme ça. Donc c'était une borne d'arcade. C'était une borne d'arcade donc en 78. Et alors bon, le truc c'est qu'il y a toute une partie d'observateurs qui, mm-hmm, pensent que c'est le premier jeu de plateforme parce que c'était le premier jeu à avoir un bouton pour faire sauter ton personnage.
D'accord. Voilà.
Donc sachant que c'était pas dans la définition de Raan, mais c'est vrai qu'il y a quelques des choses essentielles à respecter
mouvement
dans le jeu de plateforme, le mouvement ou quoi, ou le saut ou la plateforme en elle-même.
Et le timing aussi, du coup pour attraper les insectes.
Donc en l'occurrence, ça ne ressemble pas du tout à un jeu de plateforme tel qu'on le conçoit.
Puisqu'il n'y a pas de plateforme.
Mais c'est le premier jeu à avoir eu un bouton pour faire sauter le personnage.
Ok. Alors ça, effectivement, paternité de Frogs pour le bouton de saut, mais alors. On le sait, hein, pas de plateforme, donc c'est un peu étrange pour un premier jeu normalement de plateforme. Alors, deux ans plus tard, en 1980, en arcade, débarque Space Panic. Et alors lui, il n'y a pas de bouton de saut, mais en revanche, il y a quelque chose d'important pour le futur de la plateforme, on va dire.
Bah oui, des plateformes.
Non, mais mine de rien, c'est important. Des échelles
des
aussi.
Des échelles, en fait. Voilà. Donc, contrairement à Frogs, pas de bouton de saut. Donc mm-hmm. Alors là, c'est pareil. Certains diront que ce n'est pas un jeu de plateforme à cause de ça. En l'occurrence, bon, on passait de plateforme en plateforme en montant à des échelles. Mm-hmm. Voilà. Donc l'un avait le bouton de saut, l'autre avait les plateformes.
Et donc finalement.
Donc c'est pour cette raison que la grande partie des observateurs toujours
vont s'accorder à dire que finalement c'est en 1981, voilà, un jeu Nintendo fort connu ma foi, arcade, premier titre de Miyamoto, Donkey Kong,
voilà,
qui réunit donc à la fois le saut à la fois les plateformes, voilà, à la fois les échelles.
Éviter les obstacles, voilà, sauter, etc.
D'accord, donc a priori, même
et
si...
Et grimper aussi, il y avait également des échelles, ouais, voilà, ouais. Comme dans Space Panic.
Tout à fait. Angel, tu veux réagir ?
Non, j'ai juste à noter qu'à l'époque, les jeux donc, se déroulaient à écran fixe. Pas de scrolling, rien, c'était sur la base d'un écran fixe.
Sauf Frogs, qui justement, même si le décor était très épuré, puisque c'était du noir et blanc, hein, un décor sans rien dedans, mais tu te déplaçais, tu avançais. Alors comme il n'y avait pas de décor, il n'y avait pas vraiment de point de repère, mais... Julo,
c'est pas du scrolling.
Voilà, c'est pas du scrolling encore.
C'est d'un écran à un autre.
C'est ça. Voilà. Mais effectivement, on va quand même s'accorder, nous, à titre personnel, ici à Gameblog, pour dire que finalement, le premier jeu qui regroupe l'ensemble des éléments qui constituent la plateforme, c'est finalement Donkey Kong en 1981. On est d'accord là-dessus. Les autres, c'est des prémices.
On peut dire que c'est le jeu fondateur, on va dire.
Voilà.
Exactement.
Alors, suite à ça, y a vraiment une période faste, hein, pour la plateforme. C'est l'explosion d'un genre, un genre qui a en plus moult formes différentes et qui va en revêtir pas mal de distinctes avec les Castlevania qui sont à la fois de l'action aussi de la plateforme, les Ghouls and Ghosts, les Super Mario qui vont se développer.
Je pense qu'il faut parler évidemment de Mario Bros et de Super Mario Bros, surtout parce qu'on parlait de jeu fondateur. Super Mario Bros, c'est évidemment le jeu fondateur quelque part de la plateforme.
Bien sûr.
Qui a fait cette transition entre Donkey Kong et tout ce qu'on a connu par la suite.
C'est le plus connu.
On va le voir ensemble tout au long du podcast, mais finalement, le genre du jeu plateforme, c'est celui qui est. Qui a évolué le plus facilement, qui a été révolutionné plusieurs fois.
Et le plus fondamentalement aussi.
Exactement. Donc on peut dire que Super Mario Bros, quand même, ça va être le vrai jeu fondateur, quoi. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est en gros, donc, pendant toute cette période des années 84, c'est ça, de 84 à 86, 87, le genre plateforme typique a été mélangé avec d'autres genres, déjà. Et ça a donné, donc, mélange avec le jeu d'action, ça a donné, donc, tu le disais, Castlevania. Il y a également eu Ghosts and Goblins. Il y a également eu Contra qui était vraiment action, mais qui était plateforme également, etc. Donc il y a eu toute une période faste comme ça, beaucoup en arcade et sur NES évidemment avec Megaman et compagnie.
Angel, tu veux souligner quelque chose, je crois.
Oui, alors en fait, c'est que le jeu de plateforme a donné lieu à des sous-genres, justement. Donc,
tout à fait.
Comme disait Julio, donc tout ce qui est Contra, et Metal Slug et tout ça, c'est donc ce qu'on appelait des run and go. Je crois, si je me souviens bien, ou en gros où tu shootais à mort, c'était ce mélange de shoot 'em up et de plateforme. Et après, le jeu de plateforme dans sa forme la plus populaire, finalement, celle de Mario, des Sonic et tout ça, qui était du jump and bop, où donc tu sautais le bop et tu retombais sur les adversaires pour les tuer.
Le bop.
Ouais, jump and bop. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est comme ça.
Sympa comme nom.
Et après, donc oui, après t'avais un autre sous-genre qui mélangeait donc des éléments de RPG que par exemple comme dans Castlevania.
Voilà. Carrément.
Et Goemon, bien sûr. N'oubliez pas Goemon.
Et CAF
Non, je voulais juste dire qu'effectivement, nous, c'est finalement le genre a explosé sur ma machine de prédilection, le PC. Enfin, je pense que c'était l'Amiga à l'époque, mais c'est pas grave. En 89, mais c'est encore là où Angel a raison, c'est que c'était encore un sous-genre. C'était Prince of Persia en 89 sur le côté combat et qu'on n'avait pas vu. Et bon, je passe sur l'aspect réalisation où d'un coup on passait des sprites qui faisaient blip blip en sautant à la Mario pour devenir un truc.
Insulte pas Mario, reste
beau.
Bien avec Mario.
Pardon Mario, qui à l'époque était quand même super moche et, oui. Et Prince of Persia est arrivé, ça a été la grosse claque. Mais c'était deux trucs en plus, c'était le time attack, puisque là t'avais une heure pour sauver la princesse, je crois que c'était une heure.
Oui, c'est 60 minutes.
Voilà, donc c'est le bon vieux stress qu'il n'y avait pas finalement à l'époque. Et le côté combat avec ces putains de squelettes et leurs trois mouvements de merde qui arrivaient à te battre quand même.
Mais la méga claque, c'était les animations du personnage.
Ah bah grave, ouais. Évidemment.
Bah, justement, Angel, flashback aussi.
Après.
Du coup. Ouais. Et
Another World.
Et Shadow of the Beast.
Ouais, Another World avant flashback.
Another World. Ouais.
Et ça a été la vraie. Enfin, techniquement, ça a été les premières évolutions, mais effectivement, on était encore dans le écran par écran. Il fallait battre l'écran, entre guillemets, et on attendait d'avoir ce qui allait se passer juste après.
Ah, alors attention, parce que là, on n'a pas l'air d'accord, en tout cas.
C'est que Super Mario, c'était pas de l'écran par écran, il y avait un scrolling.
Oui, il y avait un scrolling dans Super Mario. Ouais.
Et en parallaxe, même.
Sur NES au début, non.
Si, sur Super Mario 3, je crois.
Ah oui, voilà.
Pas le premier. Pour ceux qui ne savent pas, le scrolling parallaxe, c'est plusieurs scrollings qui vont à des vitesses différentes pour donner une impression de profondeur. Voilà.
Exactement. Dont l'un des plus beaux scrolling en parallaxe fut dans l'introduction de Mr. Nuts.
Oh là là.
Pour ceux qui s'en rappellent.
Shadow of the Beast,
oh oui,
sur Amiga.
Bref. C'est vrai aussi.
C'est un truc de vieux, faites tourner les émulateurs, les jeunes.
Julot, t'as des chiffres aussi assez intéressants, je crois, de l'influence qu'avait la plateforme.
Bah, le truc, c'est qu'on parlait d'explosion de ce genre. C'était à l'époque, en tout cas comparé à aujourd'hui, c'était tout simplement le jour et la nuit au niveau du succès de ce genre et du côté prolifique. En gros, chiffre intéressant, au pic de son succès, le jeu de plateforme en fait, représentait de un quart jusqu'à un tiers des jeux d'une console.
C'est gigantesque. C'est
hallucinant. Donc,
t'avais un quart de plateforme, un quart de shoot.
Ouais, non, mais c'était. Oui, un quart de beat'em all. Il y avait beaucoup de shoot, ouais, c'est vrai. Mais bon, la plateforme, c'était le genre roi, quoi. Sur Master System, par exemple, 113 jeux sur 347, ça fait plus de 32%. Sur Mega Drive également, époque 16 bits, 264 jeux sur 1044, ça fait 25%.
Donc, alors, c'est colossal.
Voilà, c'était le genre roi, et c'était un genre qui. On s'en souvient tous, il y avait tout le temps des nouveautés dans le nouveau jeu de plateforme. Ouais. Tu parlais de Prince of Persia avec le Time Attack.
Chrono. Quoi.
Bionic Commando, où tu avais le mec qui avait le grappin, ouais. Castlevania, etc. Il y avait à chaque fois des tas de trucs à faire et tout a été fait comme
et
ça pendant des années.
Tous les jeux d'action étaient vraiment basés sur ça en fait. Tu avais des plateformes, il fallait sauter sans arrêt. Les rigards, les machins, les bidules, à chaque fois tu avais quelque chose. C'était vraiment une base fondatrice.
Wonderboy.
Ouais.
Wonderboy, où tu pouvais te faire piéger par le scrolling d'ailleurs.
Exact.
Et même des jeux de l'époque 16 bits qu'on voudrait pas faire rentrer dans les jeux de plateforme. Moi, je pense notamment à un de mes jeux préférés, ActRaiser.
Le 2.
Le 1 aussi. Ouais, parce que le 1, c'est évidemment un jeu avec. Il mélangeait plein de trucs en fait, ActRaiser. Tu avais de la gestion stratégique, en gros, ce que ça ressemblerait à ça aujourd'hui, où tu devais reconstruire ta ville, etc. Il y avait cet aspect RPG, mais avant tout, quand tu te balançais dans un niveau, c'était de la plateforme action, quoi. Voilà.
On a parlé de Bionic Commando avec le grappin qui était aussi une manière de s'affranchir des plateformes entre guillemets puisque tu pouvais accrocher ton grappin un peu partout. Il y en avait un autre qu'on oublie souvent, Strider, où tu pouvais t'accrocher.
Comment c'était fantastique.
Tu pouvais t'accrocher au mur, etc.
Tu pouvais glisser.
Il y avait toujours des plateformes un peu partout à l'écran et le level design de ces jeux-là c'était toujours basé sur des étages et des trucs comme ça. Mais les personnages commençaient à hériter de capacités pour s'affranchir de ce level design.
Mais ils pouvaient s'accrocher en dessous. Et tout.
Voilà.
J'ai kiffé, j'ai bavé sur les screenshots de ce truc dans les magazines de l'époque. J'étais gosse.
C'était beau, Strider. Ouais.
C'était voilà. Quand j'y croyais pas, en fait, tu voyais les photos, on pourra s'accrocher partout. Il fait non, déconne pas.
Bah justement, là, puisque là, c'est important et c'est intéressant. Et avant de s'attarder vraiment sur le cœur de ce podcast, qui va être le grand débat de l'évolution, justement, générale du genre et où est-ce qu'il nous amène aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, chacun à son tour, sur les jeux de plateforme essentiels, ceux qui, pour vous, on a commencé à le faire, mais ont apporté vraiment un vrai plus, ont motivé le genre à grandir, à grossir. Et surtout à s'affranchir, effectivement, à l'image de Strider, de certaines règles, de certains carcans. Qui veut prendre la parole? Qui veut commencer?
Qui veut dire Super Mario Bros en premier? C'est ça. J'ai gagné, Super Mario Bros.
Alors, parle-nous brièvement de Super Mario Bros. C'est dans toutes les têtes, mais effectivement, à l'époque, ça révolutionnait tout. Hein.
Super Mario Bros, on ne va pas dire qu'il a tout inventé, parce qu'il y a eu plein d'autres choses qui ont été inventées, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est le jeu fondateur. Hein,
je crois que c'est surtout la perfection du timing.
C'est
en
ça,
fait.
Voilà.
C'est-à-dire que tout était. Quand tu perdais dans Mario, c'était parce que tu n'étais pas bon. Mmh. Tu n'avais pas l'impression que le scrolling t'avait niqué, qu'il y avait un bug de pixels.
Ouais, il y avait quand même encore beaucoup de par cœur. Hein,
bien sûr.
Mais oui, c'est ça.
Mais tu avais des jeux où tu avais vraiment cette sensation d'injustice en disant. Ouais. Il est mal codé, c'est un bug du jeu.
Le personnage qui flotte, trucs, etc. Voilà. Alors que là, Mario, il est.
T'avais plein de trucs intéressants comme les Warp Zone, par exemple. Ouais. Ça paraît tout con aujourd'hui, mais les Warp Zone, c'était génial. Quoi.
Attends, avec des musiques différentes.
Passer au-dessus du décor, tu vois, ce genre de choses. Il y avait des tas de subtilités et puis. Voilà.
Et le rythme du jeu était top.
On y jouait sans cesse. Quoi.
Ah bah si on s'arrête pas à Super Mario, le tout premier, si on parle du 1, du 2, du 3, etc. Il s'est révolué.
Et Super Mario World.
Et voilà, et on attend Super Mario 64 pour tout à l'heure parce que l'arrivée de la 3D a vraiment bouleversé le genre plateforme. Donc on se le garde pour tout à l'heure. Mais c'est sûr que du premier Super Mario à Super Mario World, mais le. Yoshi qui apportait vraiment une nouveauté, qui était finalement le premier engin quasiment dans un jeu de plateforme, les pièces, les warp zones, les différents
Mario,
personnages avec ses capacités dans Mario 2, enfin
chaque nouveau Mario comme ça c'était un bonheur de de découvrir en fait tous les nouveaux trucs.
La carte sur Mario, Super Mario 3.
Ouais, ouais, tout à fait. Dans, et on se rappelle aussi de Super Mario Bros 3 qui était juste mais hallucinant quoi.
Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est la jaquette. Je sais pas pourquoi.
La jaquette
jaune vif, mais
jaune vif avec la queue de raton laveur.
Tu peux pas lutter.
Tu pouvais commencer à voler.
Mais c'est ça. Génial. Mais raton laveur, on flottait surtout. Mais dans Super Mario World avec la cape. Mais on volait, c'était extraordinaire. Moi j'ai des rêves encore.
C'était pour découvrir de nouveaux secrets, de nouvelles choses. Tu vois,
il fallait faire des piquets pour remonter plus haut et redescendre.
Et à l'époque, il y avait des récompenses pour tous ces joueurs parce que c'est le début de l'exploration aussi, justement. C'est-à-dire de laisser aux joueurs la possibilité d'avoir cette curiosité d'aller voir à des endroits où, en théorie, ils ne devraient pas forcément aller. Et il y a toujours ce petit point qui va récompenser l'exploration du joueur.
Ah bah, Julo parlait des Warp Zones, mais effectivement, dans Super Mario 3 et dans Super Mario World, avec la carte, le nombre de passages secrets qui t'amenaient dans d'autres endroits, qui faisaient découvrir des éléments de la carte.
Les blocs invisibles où il fallait, tu sautais sans arrêt pour voir s'il n'y avait pas un bloc planqué dans un coin pour monter et tout. Quoi.
Le vrai Super Mario Bros 2, celui qui était en fait le Super Mario Bros 2 au Japon, qui n'est jamais sorti chez nous.
Bah, sauf dans la version All-Star.
Voilà, tout à fait. Mais parce que nous, notre Lost Super Level. Mario Bros 2, donc c'était un autre en fait. C'était une sorte de spin-off, quoi.
Mais qui était sympa.
Et ben oui, certes, certes, vraiment très différent.
Très différent.
Très différent.
Focus, focus.
Bref, donc Super Mario Bros 2 était basé justement sur ces warp zones à mort, quoi. C'est-à-dire que tu pouvais finir le jeu vraiment très 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 rapidement.
Ah oui, en un quart d'heure.
Bonnes, ouais. Et il est disponible d'ailleurs sur la Virtual Console, je crois.
Très bien. Oui, c'est vrai que Mario, c'est un indispensable. Mais Caf lève le petit doigt, donc c'est soit pour rajouter quelque chose, soit pour un nouveau titre. Suspense, ouais. Fais-lui rêver, un nouveau titre. Eh bien ok, j'ai envie de dire banco, un nouveau jeu de plateforme, c'est parti.
Non, c'était justement pour revenir sur l'évolution qu'il y a eu, parce que tous ces jeux-là, en fait, dans les années 80, début des années 80, il n'y avait pas d'histoire, c'était que du défi, l'histoire, elle était prétexte à deux balles.
Va chercher la princesse, sauver, voilà. Et dans un autre château.
Voilà, exactement. Hey, tu as bien fait de venir. Non, bah repars maintenant. Et avec les jeux PC qui sont arrivés sur console aussi, d'ailleurs, mais effectivement, bon, alors Prince of Persia, il fallait sauver une princesse aussi, on va pas savoir. Mais Flashback, par exemple, voilà, plateforme, vraie mise en scène, vrai scénario, et pourtant, ça reste du putain de jeu de plateforme. Flashback derrière
Another World
c'était
avant
j'ai dit quoi du coup
t'as des flashbacks
ah ben, c'est Another World
le premier
ouais.
Eric
fait,
Chahi
les deux voilà je voulais parler des deux en fait
ils sont très proches
les deux ont vraiment amené cet aspect scénario histoire etc où on est un peu sorti du trip les gars il y a une princesse faut y aller mais bon ça c'est un peu relou mais moi ces deux jeux m'ont marqué parce que techniquement ils étaient au top pour leur époque et parce que vraiment,
même si Another World était vraiment très complexe on parlait justement de la précision du timing d'un Mario là c'était vraiment waouh c'était même plus de la précision c'était au microdième près quoi c'était dur
faut être honnête il était pas très bien réglé niveau gameplay
à la fois il avait été développé tout seul par Eric Chahi tout seul
ça ne partenait à rien le personnage il flottait un tout petit peu alors qu'en fait t'apprenais à connaître les limitations de ton personnage donc tu savais qu'il fallait vraiment t'arrêter un tout petit peu avant parce que sinon t'allais être un peu long et tu allais te taper t'avais des espèces de petites limaces
première scène avec l'espèce de tigre noir là machin je pense qu'on l'a vu à peu près tous 720 fois tellement on est mort 908 fois
c'est une horreur
mais aujourd'hui on parlerait de moteur physique en fait c'est essayer de domestiquer les règles qui gouvernent le mouvement du personnage
mais est-ce qu'à l'époque justement des Another World ou Flashback on appelait vraiment ça des jeux de plateforme j'ai pas l'impression on appelait ça plutôt de l'action ou de l'aventure
c'était hyper limité les types de jeux
finalement c'est avec le recul qu'on peut mettre tous ces trucs là dans le même panier
mais bien sûr
c'est aujourd'hui en 2008 qu'on peut faire ça
avant c'était des sous-genres qui étaient pour nous novateurs
qui étaient des genres quoi presque entière à chaque
c'était de l'action pour nous c'était de l'action avant d'être de la plateforme mais parce que t'avais les jeux finalement t'avais les shoots c'était relativement limité de la segmentation
il y a des jeux où la question se posait même pas tu prochais pas un Turrican par exemple c'était du shoot tout le monde le classait en shoot parce que t'avais un milliard d'armes tu tirais tout le temps l'aspect plateforme on s'en foutait un peu
les contrats
surtout
qu'en
plus un Turrican concrètement t'as pas vraiment de difficulté par le côté plateforme
c'est
les vagues d'ennemis qui te foutent dans la merde.
Cela dit, il fallait gérer les plateformes aussi dans Contra.
Ah bah tu peux, oui.
Ah bah dans Contra 3, précisément, il y avait quand même quel jeu fantastique.
Mais Turrican, tu faisais des tels bons, etc. Que tu pouvais crever pas à cause des plateformes, fallait pas avoir de bol, quoi.
Ou être très mauvais.
Ouais, j'ai des noms.
Je peux balancer un titre.
T'as été sage.
Oui.
Bon bah alors c'est bon, tu peux y aller.
Non, je voulais parler de Goemon Fight parce que aussi, donc dans le côté un peu mélange des genres, etc. Goemon, donc Gambare Goemon, c'était donc non seulement un jeu avec beaucoup de phases de plateforme, mais aussi un jeu d'aventure où tu devais te balader dans un village, parler à des gens, etc. Et c'est aussi j'ai peur de dire une connerie en disant le premier, mais allons-y. dans mes souvenirs en tout cas, le premier à avoir en fait mis à l'intérieur du jeu des tonnes de mini-jeux.
Oh non, c'est pas vrai, tu peux pas dire ça.
Si, si, je crois bien, franchement. Donc,
mais on pourra pas t'aider parce que je crois que t'es un des seuls ici à y avoir joué.
Peut-être, mais sur le forum, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire...
Sur le forum de Gameblog.fr, vous allez pouvoir nous apporter cette lumière.
C'est un jeu pour l'époque qui était quand même un truc de ultra hardcore gamer.
Bah, non, tous ceux qui jouent en import, en fait. Franchement,
voilà.
Non, mais à l'époque, tout le monde joue en import.
Gilo, écoute, quand tu viens de dire, tous ceux qui jouent en import, qui habitaient Paris et qui avaient accès aux cartouches
à 700 euros,
à 700 balles.
Non, non, à l'époque de la Super Famicom, je suis désolé, oui, moi, je vois dans mon école, on était 5 dans la classe.
Dans ton école de bourgeois.
Dans
ton école, je peux me permettre. Oh,
je rêve. Non, non.
Non, non, c'est la réalité, Gilo.
Il n'y a qu'à voir.
Dans ton école du 1-6.
N'importe quoi. C'était le 0-4.
Ceux qui connaissent Paris,
ce podcast part en vrille.
Auront compris le problème.
Non, 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 mais attends, il n'y a qu'à voir.
Gilo a souffert dans son enfance.
On a tous fréquenté le boulevard Voltaire à l'époque.
Oui.
Franchement, c'était. C'était
hors de
génial,
prix,
quoi.
Oui.
Ouais, on se démerdait, quoi. On s'échangeait les jeux entre potes et tout. Non, attends, il y en a, j'en connais ici qui ont eu une Neo Geo. Hein.
Bon, d'accord, ça va, c'est vrai. Mais moi, c'est pareil, j'avais un jeu, je l'échangeais toutes les semaines.
Bah, le thématique de ce podcast n'est pas les règlements de compte, s'il vous plaît.
Même sur Super Famicom, à l'époque, on devait s'échanger les jeux.
Alors Goemon, Gombare Goemon.
Mais donc, non, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est un jeu extraordinaire déjà pour son ambiance, son côté délirant et tout. Donc, il existe sur la Virtual Console aussi, je le conseille à tout le monde. Tout comme ActTracer que je citais tout à l'heure également.
Ça me fait penser à Looney Tunes en fait.
Sur Super Nintendo, extraordinaire.
Qui était un jeu de plateforme à la base, mais qui était non seulement de niveau en niveau t'introduisait un univers complètement différent, soit SF, soit médiéval, soit machin, mais qui avait aussi des phases très particulières qui s'apparentaient à des mini-jeux.
Le tir de baseball là, ou je sais pas quoi, où on devait aller le plus loin possible,
trop,
c'était extraordinaire.
C'était un excellent jeu.
Il était super beau.
Attends, un jeu à licence excellent.
Exactement. Et là, dans la foulée, je t'en sors un autre. Adam's Family.
Voilà. Adam's
Aladdin,
Super Nintendo.
Aladdin et le Roi Lion sur Mega Drive, qui était excellent.
Mickey
avec
Mouse.
Mickey Mouse,
cool spot,
Castlevision.
Comment j'ai piqué Cool Spot en
il voulait le dire.
Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, hein, ça part un peu dans tous les sens, on se parle un peu tous les uns sur les autres, mais il y a de la passion. Pardon. C'était des très grands jeux et il y en avait une flopée. C'est, Julo, tu le disais il y a quelques instants, hein, c'était de un tiers à un quart de la production de certaines consoles. C'était juste colossal. Et Angel, je crois que tu as encore d'autres titres, hein, avant qu'on rentre vraiment dans le débat de l'évolution.
Désolé,
du
Angel,
genre.
Cool Spot.
Attention.
Non, alors, moi, j'ai une réflexion à faire, c'est que, alors, très souvent, enfin même toujours, quasiment toutes les mascottes des constructeurs étaient issues d'un jeu de plateforme.
Exact,
très juste. C'est-à-dire, tu vois, chez Sega, donc c'était Sony, Nintendo, Mario.
C'était Sonic.
Même
Sonic.
Pas Sony. Oui. Voilà. Donc, tu vois, même pour la PC Engine, finalement, c'était PC Kid.
Ouais.
Qui était bien. Chez Sony, la mascotte non officielle,
ça
mais
être Crash.
C'était quand même Crash Bandicoot. Ouais. Quoi, c'était pas officiel, mais presque. Mm-hmm. Tu vois, enfin, on a toujours pris
c'est très juste.
Un perso sympa. Et donc, ça m'amène à parler donc de Sonic.
Dont tu es très friand.
Non, mais parce qu'à l'époque, justement, lui, il apportait un vrai truc, plus d'être super beau.
C'est vrai qu'on en a pas parlé.
En plus d'être super beau, en termes de scrolling, on avait juste jamais vu ça. Ça allait super vite et ça changeait radicalement d'un Mario, par exemple.
Ah, complètement.
Tu vois, ça se battait pas du tout. C'était la même catégorie, mais c'était pas vraiment le même genre, quoi.
Bah, ça représentait vraiment la différence de philosophie d'approche de Sega et de Nintendo. Nintendo bien installé, avec un jeu très soigné,
très en
invention,
finalement.
Etc., mais très posé. Mmh. Et Sonic, un jeu qui. Peut-être qu'elle est très vite, où il faut aller tracer, où on pouvait jouer à deux d'ailleurs dans le deuxième épisode, ce qui était une vraie nouveauté aussi pour l'époque.
Ouais, sauf qu'il était complètement foireux parce que l'écran splitté était écrasé. Donc c'était un vrai scandale. Mais non, c'était un vrai scandale, l'écran splitté était écrasé.
C'était une tentative.
Mais, non, enfin, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'était un truc qui allait à 2000 à l'heure, c'était ultra nerveux, contrairement à Mario, justement, où tu devais te faire chier à calculer tes sauts, comme tu disais, tu vas piquer du nez pour finalement te relever, etc. Là, Sonic,
avec la plume.
C'était brut, quoi.
Ouais. Caf.
Non, mais là, c'était un vrai débat dans les cours d'école, ça. C'était Sonic contre Mario. Et chez les journalistes, c'était Sonic contre Mario. C'est les deux jeux, c'est de la plateforme, vraiment pure, et ça a tellement, mais rien à voir, quoi.
Est-ce que quelqu'un, peut-être qu'Angèle s'en souvient, le nom de l'épisode de Sonic qui était en 3D isométrique, le premier. Il y en avait
non,
un.
Non, alors il y a eu un niveau bonus. Il y a eu dans le 2. Dans le 2, les niveaux bonus, c'était un tunnel et c'était de la 3D iso. C'est-à-dire, tu le voyais de dos, mais c'était.
Non,
c'était
ça, c'est de la 3D à la con. Je parle de.
Là, il t'a calmé. C'était de la 3D à la con, ce qu'on appelle le 3D conning.
Non, t'as eu un Sonic. T'as eu
un héros de vue de dos, c'était.
T'as eu un vrai Sonic 3D, je crois, sur Mega CD, je crois.
je me souviens, putain, j'ai fait le test il y a super longtemps.
Oui, oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire.
Vraiment en 3D isométrique, c'est-à-dire comme, avec, comme un échiquier, si tu veux, vu un petit peu.
Oui, oui, on roulait avec ça. On va le retrouver dans quelques instants, grâce à la magie d'Internet. vous allez voir, c'est fantastique.
Et je me demande donc, du coup, si c'était pas le premier à faire ça, en fait.
C'est fort possible que ce fût l'un des tout premiers, effectivement, au niveau de la plateforme.
Dans Sonic 3, tu pouvais insérer la cartouche de Sonic 1 et Sonic 2 pour refaire les niveaux, mais machin. Mais le système marchait pas très très bien. Mais bon, ils avaient tenté le coup quand même. Ça par contre, c'est.
Tu pouvais faire la cartouche. Il y avait un emplacement dans la cartouche.
C'est-à-dire, il y avait un slot femelle dans la cartouche de Sonic 3, où tu pouvais insérer donc Sonic 2 et Sonic 1. Pour rejouer tes niveaux donc de Sonic 1 et Sonic 2, mais avec le gameplay de
c'était Sonic 3D Blast, voilà. Dont l'autre nom était Sonic 3D Flicky's Island, mais le truc c'est que c'était pas développé par Sega directement, c'était développé par Traveller Tales, et il était pas très calé en fait comme jeu, au niveau des sauts etc, c'était un peu très perturbant.
C'était pas ça l'important,
tout ça pour ça.
Ah bah merci Raon.
Mais effectivement il innovait dans cette approche là à peu près à la même époque d'ailleurs, de l'autre côté, hein, du côté Super Nintendo, on avait Donkey Kong Country qui apportait le côté très soigné visuellement, un peu l'imagerie 3D, puisqu'à l'époque il y avait un deal avec Silicon Graphics qui avait été signé avec Nintendo, exactement, époque de Killer Instinct etc, mais qui essayait d'apporter quelque chose d'un petit peu supplémentaire au niveau de l'ambiance. Et c'est vrai que c'était bluffant de penser au premier Super Mario World techniquement et ce Donkey Kong Country plutôt en fin de vie de la Super Nintendo qui envoyait du lourd quand même.
Mais Angel. Ouais, alors donc c'est ça, avec la 16 bits, ça a été la deuxième grosse vague de jeux de plateforme. Il y a eu une apogée entre 84 et 86, mm-hmm. avec tous les Mario en 8 bits qui sont sortis, et avec les
Megaman, les Kirby,
exactement, Castlevania, tout le bazar, mm-hmm. et avec la sortie des consoles 16 bits, Mega Drive, Super Nintendo, là on a de nouveau eu une grosse explosion de nouvelles licences, hein. Mm-hmm. Ce qu'on a dit, tu vois, Sony.
Quand on parlait des licences aussi tout à l'heure, tout ce qui est Aladdin etc, c'était cette époque là aussi, les Mickey Mouse, The Castle of Illusion,
Edward Jim aussi,
Quackshot était très bien aussi.
C'était pas mal.
Mr. Nuts, qui se souvient de Mr. Nuts?
Ah bah oui, bah j'en parlais tout à l'heure. Mr. Nuts, terriblement dur contre les specs de Dogre à la fin, là, sur ces nuages. Oh là là, c'est une époque encore où il n'y avait pas de continu illimité.
Progression donc... par l'échec, monsieur.
Ah bah oui, puis alors tu te retapais tout le premier niveau alors que tu le connaissais par cœur, mais ça, c'était une horreur.
C'était pour ça que la durée de vie était super grande.
Ah oui, c'était Magician Lords aussi, tiens, il me revient en tête. C'était un jeu de plateforme aussi, mais il était super balèze et du coup, je ne pouvais pas ne pas en parler.
Sur Neo Geo, balèze, super dur.
Bon, avant vraiment de rentrer dans le débat, Julo, un dernier titre, et après on va vraiment se concentrer sur l'époque 3D.
Et pas des moindres, parce qu'on parlait de la fin de vie de la Super Nintendo, enfin de l'époque 16 bits. Il y avait quand même Yoshi's Island,
bien sûr,
qui était juste
fantastique,
juste incroyable, un jeu
trop mignon,
un jeu apothéose quoi, pour finir avec cette période là quoi.
Vous l'avez peut-être pas entendu, mais Angel, s'il te plaît.
Robocode, j'avais beaucoup aimé Robocode.
Il y en avait un donc.
J'ai beaucoup aimé.
Allez, bon, on a fait à peu près le tour succinctement, bien sûr, mais ça doit vous rappeler des souvenirs et vous en avez probablement plein d'autres. Vous en parlerez dans le forum.
Quand même une petite rachie,
je précise juste que oui, on n'a pas parlé des milliards de jeux qui sont sortis sur Amiga et ST uniquement, parce que là, on y passe la nuit. Quoi.
Bien sûr. Et puis, c'est pas fondamentalement le but de ce podcast plateforme. C'est pas de vous faire un grand listing des jeux essentiel, c'est plus vraiment de voir son évolution. Donc là, on l'a évoqué un petit peu, chaque titre qu'on a essayé de citer ont apporté quelque chose, que ce soit technique, que ce soit au niveau de la narration ou quoi que ce soit. Mais là, on va vraiment arriver à un moment charnière, le passage à la 3D. Et un passage à la 3D, forcément, ça change la réalisation, ça change l'immersion, mais ça a aussi complètement bouleversé les codes du jeu de plateforme. Et du coup, on est arrivé un petit peu aux limites du genre. Et pas tout de suite. On est en 96, Mario 64 débarque, c'est juste la révolution.
Ouais, mais alors attends, justement, voilà, parce que avant Mario 64, qui a tout commencé pour le jeu de plateforme en 3D.
Alors, quand on a ce ton-là et cet air-là, il va se passer quelque chose dans les instants.
Vous ne le voyez pas ici, mais il lève le doigt.
En majusculairement.
justement, le passage à la 3D, ça a posé beaucoup de problèmes pour plein de genres de jeux. Mm-hmm. Qui sont révélés difficiles à adapter, et le jeu de plateforme au départ, c'était pas évident de le faire en 3D. Il y a eu des tentatives.
Il y en a qui ont essayé. Voilà. Ils ont eu des problèmes.
Et il a fallu attendre vraiment Mario 64 pour retrouver un gameplay réglé aux petits oignons qui bénéficie vraiment de la 3D.
Il y a eu notamment, vous vous rappelez sur Saturn, Clockwork Knight. Ouais, ouais. Bah, voilà, c'était en gros c'était de la 3D, mais c'était pas de la 3D quoi. Voilà, c'était de la 2,5D.
Bah la Pandemonium quelque part. Aussi.
Comment ?
Pandémonium.
C'est ce que je viens de dire. Exactement, Pandémonium.
en 3D ISO.
Pandemonium, ouais, c'est la même année que Mario 64.
Enfin, je mais Pandemonium, c'était pas un mauvais jeu, par contre.
Non, non, c'était pas un mauvais jeu, mais on était vraiment sur des rails, quoi.
Je crois. Mais effectivement, c'était, on était sur des rails et il n'y avait rien de...
Crash Bandicoot,
c'était bien fait.
Crash Bandicoot, c'est un petit peu après, c'est un petit peu différent aussi.
La même année en tout cas, moi, je me rappelle pas exactement.
Mais c'est vrai que on était, alors là, on n'était pas sur des rails, mais le décor avançait toujours tout droit, quoi. Il y avait des petits embranchements.
Ouais, autant être clair, c'est Mario 64 qui a inventé le jeu de plateforme 3D.
Mais alors justement,
qui l'a révolutionné en tout cas.
Bah, exactement, parce que moi, c'est un peu la question, parce que moi, par exemple, Mario 64, pour moi, c'est un souvenir absolument gigantesque. Mais je sais pas si je le qualifierais totalement de jeu de plateforme. Pour moi, je serais tenté de dire qu'il se rapproche tellement fortement d'un jeu d'aventure, tellement ultra immersif, avec ce gigantesque hub pour la première fois où on était dans un château, où on devait aller dans des lieux, dans des salles pour découvrir des niveaux, où on regardait à 360 degrés. Ouais, alors certes, il y avait des sauts.
Mais c'est des sauts tout le temps, c'est la base du gameplay.
Mais oui,
ouais. C'est la base du gameplay. Donc toi, ton impression, elle est dans l'aventure. Mais ça reste un jeu de plateforme.
Alors, attention, parce que, attendez juste une seconde, parce que vous avez bien entendu ce qu'a dit CAF. Ressortirai dans quelques instants en vous citant d'autres noms et on verra si c'est vraiment des jeux de plateforme. Oui, mais je suis d'accord avec toi.
Si on revient à la définition qui est centrée sur l'habileté,
ça rentre complètement dedans.
Et il en faut, hein, bordel. Ouais.
Non, mais c'est ça, justement, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Finalement, il y a eu les fondateurs, il y a eu cette première révolution qui consistait à mélanger les genres et à tout inventer, finalement, tout ce qui a été fait avant de tourner en rond, de reproduire d'autres choses, etc. La 3D. Alors peut-être que c'est ton ressenti surtout de l'époque, parce que quand on a le recul aujourd'hui, on sait très bien que Mario 64 c'est un jeu de plateforme, et que on le disait, il a tout d'un jeu de plateforme. C'est simplement que c'est à ce moment-là qu'il a été à nouveau révolutionné, et on va le voir encore aujourd'hui en 2008. On peut dire que il existe encore par le biais
Le fait est que dans Mario 64, tu discutais avec des personnages déjà, par exemple. Quand t'arrivais dans un nouveau niveau, t'avais plein de petits personnages où tu pouvais aller leur parler, qui te proposaient certains challenges. C'était
Ben oui, mais les challenges, c'était quoi
un peu différent.
Les challenges, c'était quoi, c'était...
On est d'accord. Hein,
ça, non, mais on est complètement d'accord. Voilà. Mais il y avait justement une dimension tellement supérieure. C'était pas juste un passage à la 3D. C'était une manière de conter l'histoire, parce que finalement, il y en avait. Voilà, c'était toujours aussi simple. Hein. Ouais. Mais il y avait pas de durée. Dans tous les Mario, jusqu'à présent, il y avait une durée. On avait 200 secondes pour finir un niveau. D'ailleurs, si on le finissait vite, on avait des points, etc. Là, il n'y avait pas de temps. On se baladait à son rythme. On revenait en arrière. On avait un univers complètement cohérent.
Il n'était pas linéaire.
Ouais, il n'était pas linéaire du tout. C'était vraiment agréable. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la réponse, alors bien plus tard, hein, mais de Sega avec Sonic Adventures, qui justement le souligne même dans son titre en lui-même, c'est la même chose. Hein. C'est de la plateforme. Alors certes, plus vive, plus nerveuse, etc. à la Sonic, on va dire. Mais ce même grand hub 3D est dans le nom Adventure, qui souligne quand même quelque chose, qui veut dire quelque chose.
Ouais. Bah, qui veut dire que tu rencontres d'autres personnages, que tu vas leur parler, qu'il faut aller trouver des trucs à droite, à gauche, avant de se lancer vraiment dans un vrai niveau, etc.
Et c'est ce qui fait que Super Mario 64 n'est pas seulement un jeu révolutionnaire de la plateforme, c'est un jeu fondateur pour tout le médium, quoi. Donc il a été beaucoup plus loin que de simplement proposer une solution à la 3D pour la plateforme.
Il a montré la voie, quoi.
Il a été sublimé après par Prince of Persia 3D. C'était un petit peu dommage pour Mario, mais qui est un exemple de catastrophe de licence qui a voulu passer à la 3D.
Oui, alors oui, on parle bien de Prince of Persia 3D, hein, le premier avant que ce soit repris par Ubi.
Oui. Voilà. Le premier Brotherbone encore, je crois, à l'époque.
Exactement. C'est quand même intéressant, ça. On l'a cité, hein, Donkey Kong révolutionner le genre de la plateforme, si ce n'est même la créer, en fait. Super Mario World, Super Mario tout court, Mario Bros, a révolutionné aussi, a établi vraiment des nouvelles bases. Mario 64, à chaque fois, il y a toujours un homme en commun, c'est Miyamoto quand même.
Oui, non, il n'a pas été mauvais, le garçon, là.
Ouais, il paraît qu'il est connu dans le milieu.
Oui.
C'est un japonais. Moi, je sais pas, j'ai jamais vu.
C'est un japonais, je crois.
Non, mais à ce niveau-là, quand même, il a apporté tellement aux jeux vidéo au sens large, puisqu'on va le voir.
Hein. Ouais, comme Wii Music, par exemple.
Et comme Wii Music, ouais, ça, c'est d'autres choses.
Oups.
Bon, écoutez.
Comment détruire une légende.
Pas être génial tout le temps. Non, mais ce qui est vraiment important, c'est que justement, arrivé de la 3D, par exemple, moi, je pense à des titres Tomb Raider, Ratchet & Clank. C'est aussi de la plateforme. C'est les fils spirituels de Mario 64.
Et du bougeage de blocs dans Tomb Raider.
Exactement. Mais à la fois, c'est carrément de l'aventure quand même.
Ah bah ouais.
C'est plus de la plateforme. Enfin, par exemple, Tomb Raider, est-ce qu'on se dit c'est un jeu de plateforme?
On fait voyager.
Je t'assure que le premier, quand tu faisais des sauts ultra millimétrés, je peux t'assurer que oui, c'est de la plateforme.
Ah bah carrément. Oui. Puis quand tu les ratais aussi, parce que la caméra, elle n'avait pas bougé comme tu voulais.
Non, c'est parce que les sauts étaient vraiment, vraiment millimétrés. Tu vois, comme disait Caf, au bout d'un moment, tu apprenais qu'il fallait que tu fasses deux pas à partir de là.
Alors c'est amusant parce qu'à l'époque, j'ai regardé un petit peu dans certaines revues qui connaissait un petit succès sympathique, Joypad, PlayStation Magazine par exemple, c'était appelé des jeux d'action-aventure mm-hmm. et pas des jeux de plateforme.
C'est vrai. Parce qu'on était jeunes et bêtes.
Ah, parce que tu connaissais ces gens.
Mais ouais.
C'est bizarre, je comprends pas.
Parce qu'on avait justement pas ce recul.
Ouais.
Mais parce qu'en plus, je pense qu'on était encore dans cette vision étriquée. Pour nous, le marché, il continuait d'évoluer et puis on était en plein dedans. Quand t'as le nez dans le guidon, tu cherches des sous-genres. C'était des trucs nouveaux pour nous.
Et on
l'a
toujours
été.
En même temps, on a toujours eu le nez dans le guidon. Mais il y avait un autre truc aussi, c'est qu'à mon avis, il y a eu des. Il y avait un différentiel en fait entre ce qui était vraiment purement de la plateforme, genre, je sais pas, des crocs, des jex, ouais. Des jeux comme ça qui étaient même en plus qui avaient un caractère enfantin. Et c'est aussi la naissance quelque part, si on fait exception de Another World par exemple, qui était déjà comme ça, mais bon voilà, des jeux avec un univers cohérent du début jusqu'à la fin et pas une succession de niveaux dans des mondes différents, avec une histoire qui se tient, etc. Donc c'est pour ça, je pense, qu'on a mis ça en avant à l'époque.
Et des guns.
Ouais.
Angel. Je pense aussi que le truc, c'est que la plateforme se marie tellement bien avec finalement tout que ça donne des sens, tu vois, à des nouveaux genres de jeux, alors que fondamentalement ça reste de la plateforme avec des flingues par exemple, ou alors de la plateforme avec avec un tuyau d'arrosage, enfin ça rien, tu vois, mais tu vois, fondamentalement ça reste quand même de la plateforme, mais c'est juste que le genre se marie tellement bien avec tout que
je vais faire une analogie un peu étrange, mais finalement, est-ce que la plateforme, ça représente pas en jeu vidéo l'archétype même de l'aventure et de l'action en général, comme on peut le voir par exemple au cinéma, avec n'importe quel film d'action, je pense à Indiana Jones, je pense à Die Hard ou quoi que ce soit, où constamment dans ces films, les héros sautent, franchissent des obstacles, se rattrapent à des plateformes, j'ai envie de dire, et donc finalement, est-ce que le genre plateforme, c'est pas le genre qui se prête le mieux à la représentation en termes de médias de l'action pure, on va dire.
Ben on l'appelle comme ça aujourd'hui, non ? Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est des jeux d'action, point final.
Voilà, et ça c'est intéressant parce que justement, c'est un peu là où j'ai envie qu'on aille. C'est, est-ce que le mot plateforme aujourd'hui a un vrai sens encore, en 2008 ?
Je pense qu'il n'en a plus, dans le sens où maintenant, c'est un peu... comment dirais-je ? Je continue nos analogies pourries, c'est un peu comme les pâtes, tu vois, tu manges des trucs accompagnés à chaque fois, et ça s'appelle jamais des pâtes, ça s'appelle des penne all'arrabbiata, ça s'appelle des trucs comme ça. C'est une base sur un gameplay qui va évoluer. Tu prends Uncharted, c'est de la plateforme, tu prends les Prince of Persia, c'est de la plateforme, mais du combat. Mais enfin, à chaque fois, maintenant, tu as une base qui est voilà, la plateforme, et après, ça devient un autre jeu, parce qu'on a rajouté un milliard de trucs. Assassin's Creed, t'as quand même un peu de plateforme, tu vois.
C'est-à-dire, je pense, si on te servait de la plateforme pure et dure, finalement, maintenant, tu trouveras ça en creux.
Eh ben, c'est fadasse parce que t'as pas de sens.
Voilà,
et voilà, mon analogie, elle est fantastique. Merci, au revoir.
Non, mais tu vois, c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. Si on te sert de la plateforme pure et dure, finalement, tu finis par t'emmerder, quoi. C'est-à-dire, même Mario, finalement, Mario Galaxy, qu'est-ce qu'il est intégré ? Tu vois, la planète, le truc, tu vois, tout tourne en rond. Enfin, tu vois, c'est plus, même Mario ne se permet plus de faire de la plateforme.
Sauf dans un petit jeu qui vient de sortir. Oui, je ne sais pas si on peut en parler maintenant.
Bah écoute,
mais sur
je ne sais pas de quoi tu vas parler. Ah d'accord, oui, c'est là où je voulais en dire.
C'est où c'est vraiment, voilà, on est revenu à une base quand même très très plateforme, parce que le reste, voilà. Mais
on va en reparler dans quelques minutes, parce que justement, je voudrais, je juste avant qu'on aborde ça, revenir un petit peu sur Mario Galaxy. Mais avant ça, quand même, je vais être poli, parce que vraiment, on fait des grands signes incroyables.
Oui, parce que... on a la sensation que le jeu de plateforme, le genre plateforme a un petit peu disparu, ou en tous les cas il s'est dilué dans des tas d'autres choses.
En tout cas, quand on a commencé à réfléchir à ce podcast, c'était un peu ça, c'était le jeu de plateforme, c'est mort, comme on avait fait avec le jeu de baston un peu.
Alors carrément pas.
On a changé un peu d'avis aussi d'ailleurs.
Alors qu'en fait le jeu de plateforme est partout.
Le jeu de plateforme est partout, c'est le genre spongieux qui absorbe tous les autres, tu vois.
C'est la diaspora.
Et peut-être que la très grande difficulté de ces jeux à l'époque est aussi une des causes du fait que l'emphase du game design n'est plus placée sur l'aspect plateforme, mais sur plusieurs choses différentes. Mmh. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus vraiment de jeu de plateforme, parce qu'en fait, mine de rien, un vrai jeu de plateforme, c'est difficile.
Mais c'est surtout que c'est fini, on n'est plus dans l'époque du game over. On n'est plus dans l'époque du...
Eh bien si, figure-toi, aujourd'hui, en 2008, il y a Megaman 9 qui sort. le vrai Megaman 9.
Avec du vrai game over.
Celui qui aurait pu être un jeu en 3D, avec, comme dans Prince of Persia, plus de game over ni rien du tout. Eh ben non, ils ont fait un jeu 8 bits. Mais quelque part... Ah voilà, c'est pour ça que je suis hyper content, on n'en a pas encore parlé, et je pense qu'on va parler de Braid aussi dans pas longtemps.
Voilà.
Ouais.
Bien sûr.
Aujourd'hui, les plateformes de téléchargement, c'est juste génial pour ça, parce que moi je suis peinard dans mon coin, je joue avec Tracer et à Goemon, tu vois. Si les autres ils n'ont pas envie de jouer, de toute façon ça me coûte pas bien cher, etc. Et puis il y a des petites expériences comme ça quelque part. C'est une expérience. Ils se sont dit voilà, on va développer un jeu exactement comme à l'époque 8 bits, parce que voilà, c'est juste un trip nostalgique et ça concerne certaines personnes, ceux que ça concerne pas, tant pis pour eux, voilà. Et ils ont fait un vrai jeu 8 bits et je peux vous assurer, pour y avoir joué, pas mal. C'est juste n'importe quoi, les talents qu'on avait à l'époque.
Ah bah oui.
Parce qu'on arrivait à
et
jouer
à ces jeux-là. Et la patience qu'on avait aussi.
On arrivait à jouer à Megaman, et on arrivait à jouer à Ghouls and Ghosts. Bon, on se rappelle que c'était dur, Ghouls and Ghosts. Et on arrivait même à les finir plusieurs fois.
Je rappelle qu'il n'y avait pas de sauvegarde à l'époque. Hein.
Ouais, ouais.
Donc une fois que c'était vraiment game over, après les deux continues ennemis qu'on nous donnait, bah, c'était vraiment fini.
Il va chercher le pas.
Et puis c'était un truc, on n'en a pas beaucoup parlé, mais quelque part, le truc vraiment représentatif du genre plateforme, en tout cas à l'époque, c'était la difficulté. Le plaisir de jeu était aussi basé sur
la frustration aussi.
Il fallait que tu aies une frustration, que tu aies envie de recommencer, il fallait pas qu'elle soit trop grande, quoique je me dis, elle était toujours trop grande finalement, mais tu avais quand même envie de recommencer tout le temps. C'était ce qu'on appelle le dead and retry, donc la progression par l'échec.
On a eu le jump and bog, le dead and retry.
Le dead and retry, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui le reprochent à Mirror's Edge par exemple.
Ouais.
Dont j'ai osé dire immédiatement que c'est un jeu de plateforme parce que c'est ça.
Mais on reviendra dessus dans quelques instants.
Mais c'est vrai. Mais quand je dis osé, c'est que c'est vrai que aujourd'hui on en parle et tout, c'est sympa, mais c'est pas qu'on n'osait pas, mais c'est
peut-être un côté réducteur en fait.
Voilà, c'est quelque part on a l'impression que c'est un côté réducteur, c'est ça. Alors qu'en fait, faut l'assumer, c'est de la plateforme.
Alors justement, avant de partir un peu avec Mirror's Edge, de voir un petit peu justement les fondamentaux et où le jeu de plateforme va pouvoir encore évoluer, grandir, quelle direction il va pouvoir prendre, j'aimerais justement qu'on fasse un petit tour d'horizon. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on était en train de se dire en préparant ce podcast, c'est quel est finalement le dernier jeu vraiment plateforme qu'on avait en tête. Et on était assez d'accord pour dire que Super Mario Galaxy était un peu le dernier qu'on avait vu, mais que même avant Super Mario Galaxy, il fallait chercher encore assez loin. Et quand même, il faut savoir qu'il y a quelques semaines maintenant, Miyamoto lui-même a dit que Mario Galaxy était un bon jeu, etc., mais que finalement, il apportait pas tant de choses que ça, et que si c'est une suite, il aimerait bouleverser peut-être un peu plus le genre, parce que finalement, Mario Galaxy, gorgé d'innovations, de bonnes idées, etc., reste finalement très classique. Et on pense par exemple à un jeu comme Portal, qui est aussi qui était d'ailleurs cité par Miyamoto comme un grand jeu de plateforme, apporte beaucoup plus d'innovation dans l'absolu Mario Galaxy.
Portal, c'est vrai que Mario Galaxy
se limite à la représentation en fait.
Mario Galaxy,
sur
c'est probablement l'un des meilleurs jeux que j'ai fait ces dernières années.
Mais est-ce
c'était
que c'est
juste
pas le...
extraordinaire, mais c'était juste un Mario ultra maîtrisé, beaucoup plus en tout cas que Sunshine.
Oui,
on va encore
nous
taper dessus parce qu'on critique Sunshine, mais
oui, il peut être critiqué.
Il était quand même moins marquant.
Oui, moins innovant.
Et oui, voilà, mais il n'est pas hyper innovant non plus, mais il est d'une telle perfection et au niveau du rythme et de l'intérêt que tu peux y porter de niveau en niveau que c'était une réussite totale, Galaxy.
Ouais, mais Galaxy, là où je pense que Miyamoto, quand il dit ça, c'est que surtout, nous on le trouve varié, etc., mais c'est dans les combats, dans les
c'est
défis,
la même chose
actions,
quand même.
En fait.
Oui, ça
que Super Mario 64.
Mais le gameplay lui-même, il est vraiment ancré dans ses fondamentaux, alors que Portal a. En prenant la plateforme, parce que tu n'as pas de combat dans Portal, il y a des énigmes en revanche. Donc là, on sort du truc. Ils ont vraiment fait évoluer le gameplay même, en fait, avec cette histoire de téléporteur.
Est-ce que ce que je veux dire, juste après, Angel, c'est à toi, mais est-ce que Mario Galaxy n'est pas un petit peu le dernier des Mohicans, la dernière représentation peut-être qu'on aura d'un jeu de plateforme, on va dire, classique ? Ça n'enlève rien les qualités de Mario Galaxy. Hein,
c'est peut-être le cas, mais moi, je trouverais ça dommage.
Ouais.
Moi, je ne pense pas, moi. Je pense qu'il y en aura d'autres.
Moi, je pense que le prochain Mario, il sera en vue à la première personne.
on verra des petits pieds.
Et il y aura du body awareness.
On verra des petits pieds, on verra ses moustaches sur les côtés de l'écran et tout.
Il faudra sniper des champignons.
Donc, vous pensez pas ? Vous pensez qu'on va en voir encore
Je pense que ça va évoluer et je pense que le genre va pas finir de nous surprendre en tout cas.
Ah, ça, on est complètement d'accord. Hein. Mais le côté genre, on saute sur un personnage, sur sa tête.
Je pense
que
ça va continuer justement
par les petites pièces à récupérer.
Les plateformes de téléchargement, je pense que ça va être un vivier pour ce genre de jeu.
Ouais,
donc, finalement, un peu un retour en arrière aussi quand même.
Ben ouais, mais c'est un peu.
C'est un retour aux sources plus qu'un retour en arrière, disons. Pour être moins péjoratif. Mais c'est aussi que, un, il y a le jeu indépendant qu'il faut pas oublier. Et deux, là, quand on s'est fait cette réflexion de savoir et qu'on est retombé sur Super Mario Galaxy, c'est aussi toujours en pensant un peu 3D quoi. Mais il y a aussi toujours des jeux en 2D qui peuvent survenir,
bien sûr,
qui peuvent être très bons
sur DS.
Genre Braid, par exemple, ouais,
mais
que je mettrais presque
pas dire
dedans.
C'est un jeu de plateforme. Alors,
bon. Ah bon. En plus, on cite Mario Galaxy comme dernier jeu de plateforme. Enfin, mais à vrai dire, c'est le dernier jeu de plateforme réussi parce qu'il y en a eu d'autres, mais qui étaient juste pourris. Par exemple, des Sonic, ouais. Des Sonic, finalement, c'est vrai. Voilà, c'est un peu mal au cul de dire, il y en a régulièrement, quoi, mais ils sont juste pourris. Quoi.
D'ailleurs, on en parle.
Pas terrible. Excusez-moi, monsieur Sega.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de Sonic qui n'étaient pas. Bon, voilà. Mais on les a oubliés forcément parce qu'ils n'étaient pas géniaux.
Et on est gentil.
Eh ben, je sais pas du tout ce que je voulais dire. Donc, du coup, je vais passer la parole à Julo qui nous a fait une belle liste des
non,
jeux.
Ça. Alors, c'est pas une liste exhaustive, c'est simplement.
Mais les gros jeux 2008 voilà, plateforme.
J'ai pris 2008.
Voilà.
Il y en a eu finalement une belle plâtrée. Il y a eu des Bob l'éponge et des trucs complètement dont on n'a rien à cirer.
Oui, tu peux pas dire de mal de l'éponge.
Sinon, tu prends une claque. Angel est juste à côté.
On va parler de la qualité du jeu. Voilà.
Donc, j'ai pas retenu tout ça, mais il y a quand même eu quelques trucs cette année. Donc, Locoroco 2, mm-hmm. qui est sorti.
Ouais.
Qui va sortir. Il y a le Prince of Persia qui va sortir en décembre, qui est un jeu de plateforme. Je suis désolé.
Grave.
Ratchet and Clank Quest for Booty.
Bien sûr.
Donc, téléchargement, mais qui va sortir en dur aussi.
Même l'autre Ratchet and Clank.
L'autre Ratchet and Clank, il y a eu Secret Agent Clank sur PSP. Sur PS2, il y a eu le remake aussi de l'épisode d'avant de Ratchet and Clank sur PSP, cette année également. Il va y avoir Sonic Unleashed. Il y a eu Wario Land sur Wii.
Ouais.
Il va y avoir donc Tomb Raider Underworld. Est-ce qu'on le met dedans? Je sais
bah
pas.
Moi, oui, c'est typiquement de la plateforme.
Plus difficile, Banjo-Kazooie, parce que ce n'est plus un jeu de plateforme du tout, je pense.
Non.
Il y a eu Knights. Est-ce que c'est un jeu de plateforme?
Non, c'est un jeu de merde.
C'est surtout un mauvais jeu. C'est ça.
C'est de la merde, dit Angèle. Oui. Alors attention sur les plateformes de téléchargement. Il y a aussi des bons trucs comme Braid. Hein. Il y a eu Lost Twins également.
Ah oui, Lost Twins.
Il y a eu Lost Twins. Donc Braid. Et il y a eu Mega Man 9. Et il y a eu, je sais pas, après des tas de merde. Donc il y a eu aussi Assassin's Creed sur DS, qui est un jeu de plateforme.
Alors justement,
pas grand chose en fait, de vraiment marquant par rapport à l'époque où il y en avait 10 par an.
Mais ce qui est effectivement très intéressant, c'est de se rendre compte que mine de rien, alors certes en 2008 ça n'a pas été ultra vivace, mais que sur les consoles portables, la DS par exemple, il y a beaucoup de jeux effectivement un peu à l'ancienne au niveau du jeu de plateforme. Le New Super Mario a été juste exceptionnel, alors qu'il est très classique, hein, mais le classique ne veut pas dire mauvais. Et mine de rien, il y a pas mal de petits jeux, des jeux sympathiques, plateforme 2D. C'est-à-dire que dans la 2D, la plateforme continue à se porter plutôt bien.
Bah oui, mais
un peu comme dans le jeu de baston.
Technologiquement.
Et là, je reviens, tous les Sonic en 2D restent tous super bien. C'est-à-dire que les Sonic sur DS, ils sont tous impeccables. Hein. D'ailleurs, Julo, pour une fois, tu es d'accord avec moi.
Je confirme.
Très bien. Alors là, tout à l'heure, je voyais entre Julo et Raon une sorte de petit débat qui peut s'instaurer au niveau de Braid. Alors Raon, visiblement, ne pense que ce n'est pas un jeu de plateforme. Julo, oui.
Alors
j'aimerais connaître un petit peu les différents avis. On va commencer par Raon. Pourquoi Braid ne serait pas un jeu de plateforme alors qu'effectivement, il y a des sauts, il y a un timing à respecter, il y a des ennemis en mouvement. Donc finalement, tout ce qui est constitutif à la base d'une définition d'un jeu de plateforme.
Le timing lui-même. Je peux pas dire que le timing n'est pas important, ça va être très difficile à exprimer ça. Là, tu m'as foutu dans une merde noire avec ton.
Alors, je te donne 30 secondes de réflexion et pour l'instant, je vais donner la parole à Angel. Mais tu peux continuer à réfléchir.
Pour moi, effectivement, si, c'est un jeu de plateforme, mais comme je disais tout à l'heure, c'est encore un jeu de plateforme qui est noyé finalement dans un jeu de réflexion. Tu vois, où il faut trouver la bonne méthode.
Mais, c'est un puzzle game,
mais fondamentalement. Fondamentalement, il y a vachement de plateformes, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas nier.
Alors, pendant que Raon fait la moue, il y a Traz. Ouais. Raon, continue à réfléchir.
Bon, je crois que ce jeu-là, de toute façon, c'est Raon qui en parlera le mieux. Mais bon, moi, j'y ai joué aussi. Hein. Et franchement, je pense pas que ce soit un jeu de plateforme à part entière. Il y a des petites phases de plateforme, mais le jeu n'est pas du tout basé là-dessus.
Mais il n'y a plus aucun jeu vraiment de plateforme à part entière.
Oui,
quoi.
Ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment un prétexte pour faire un jeu basé justement sur le temps, sur l'arrêt, retour en arrière, etc. C'est pas du tout de la plateforme pure. Ils auraient pu être un jeu de voiture, ils auraient fait la même chose, quoi. Tout simplement. Donc voilà.
Alors,
c'est vraiment le prétexte, quoi.
Au bout de la réflexion, Raon, ça y est, détient sa vérité.
Non, mais les plateformes, Traz a raison en fait. C'est-à-dire que les plateformes, les sauts, la présence des ennemis, ils sont pas là pour en faire un jeu de plateforme, ils sont là pour déjà décodifier le jeu de plateforme.
Oui, parce que la princesse t'attend à l'autre bout du château, il y a énormément de références à Mario.
Voilà, et le cœur du jeu, le cœur du game design, c'est le concept du temps dans ce qu'il a de non linéaire. Qu'on ne peut pas appréhender autrement dans un jeu. Et finalement, l'habileté dont tu fais preuve pour franchir les obstacles que Braid te présente n'est pas une habileté de joueur traditionnel de jeu de plateforme, que ce soit dans Mirror's Edge, dans Tomb Raider ou dans Super Mario, mais celle de ton acuité cérébrale, de ta capacité à réfléchir à des énigmes. C'est un jeu d'énigmes.
Ouais, c'est pas
un jeu de plateforme.
En plus, tu peux pas rater. Si tu rates une plateforme, tu reviens de toute façon.
Et ça fait partie du jeu.
Oui, alors là, dans ce cas-là,
on te force à le faire.
Le côté ne pas rater, parce que dans ce cas-là, le prochain Prince of Persia, où il n'y a pas de game over non plus, où on peut certes tomber, mais jamais
mais
avoir de game over.
Il faut faire
de
l'habileté pour arriver à passer le gap.
Tu ne peux pas progresser sans habileté. Alors que dans Braid, à de très rares cas après, parce que c'est vrai qu'il faut quand même être un minimum objectif, il y a quand même des scènes où tu es obligé d'être habile à la manette. Mais c'est pas ça le cœur du jeu.
Mais c'est quand même intéressant parce que.
C'est pas ça le cœur du jeu, mais il y a des sauts qui sont timés. Où effectivement, si tu n'y arrives pas, tu reviens en arrière. Mais toujours dans un timing.
Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que Braid, c'est un jeu de plateforme, mais qui a terriblement évolué, qui finalement, où le cœur plateforme n'est plus
je
le.
Pas
n'est plus,
dire ça.
Non, mais, n'est plus le. Non, mais ça devient plus le cœur du jeu, le côté plateforme. Mais finalement, il y a tous les éléments de la plateforme.
Mais à ce moment-là,
même visuellement.
Portal aussi, finalement. Parce que Portal, c'est un jeu
de
plateforme.
Autant je veux bien dire que Mirror's Edge est un jeu de plateforme, que Tomb Raider est un jeu de plateforme.
Portal,
on y arrive dans
Portal
deux
est
minutes.
Un jeu de plateforme, je veux bien le dire, mais
c'est
Braid,
tendu.
Je n'arrive pas à lui mettre cette étiquette-là.
Portal, il est déjà en.
Mais c'est pas une étiquette qu'on veut lui mettre. Simplement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est que le jeu de plateforme, il a évolué, il a été absorbé à droite, à gauche.
Ça me gêne parce que moi, j'ai l'impression que Braid justement s'affranchir de ça.
C'est son héritage. Oui, mais c'est une réflexion intelligente.
Et là,
à la base,
alors là, c'est ultra intéressant ce qu'il est en train de se dire quand même, parce que c'est la connotation qu'il y a autour du jeu de plateforme, du mot jeu de plateforme. Il y a un truc encore
un
peu négatif, un peu genre
ça.
Old schooler, petit jeu, etc.
C'est pour ça
que ça n'a rien de sale.
Osé tout à l'heure, parce que quelque part, c'est vrai, il y a une connotation péjorative.
Comme si c'était réducteur.
Oui. Alors que je.
On le soulevait tout à l'heure avec
Mais c'est pour ça qu'on a appelé les jeux de plateforme, on les a appelés les jeux d'action au bout d'un moment, parce qu'il y avait d'autres éléments qui venaient de s'ajouter dans la plateforme.
Est-ce qu'il n'y a pas, pour justement des joueurs, un peu des hardcore gamers, des gens comme nous qui jouons depuis des années, dans le mot plateforme, une sorte de côté un peu de mots un peu nostalgiques, de rappels d'enfance, de souvenirs, et du coup d'une époque très gamer qui n'est plus d'actualité, et du coup dire que c'est un jeu de plateforme égale c'est un jeu à l'ancienne, quoi. Angel,
moi je vois ça plutôt comme le jeu de plateforme maintenant est vu comme un jeu où de toute façon où il y aura un design enfantin, où ce sera mignon, où ce sera rigolo, où on va sauter, et puis les monstres, ils auront des cornes. Enfin, les monstres seront pas vraiment super méchants, alors que le gentil, lui, il sera vraiment super gentil. Et forcément, il y a un côté, on y voit donc un côté péjoratif, quoi. C'est-à-dire, le jeu de plateforme, de toute façon, ne peut pas être vraiment super intelligent comme les Braid. Et je comprends que ça dérange rarement.
Mais c'est amusant parce que j'ai l'impression que le seul jeu dans lequel on se doit de l'appeler jeu de plateforme et ça en devient super classe et normal et pour le grand public comme pour les gamers, c'est une évidence, c'est Mario. Mais c'est le seul, finalement, qui réussit à pouvoir être appelé jeu de plateforme sans qu'on trouve ça péjoratif, Traz.
Ouais, moi, c'est un peu ça que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le mot plateforme, il s'applique à quasiment rien, quoi. Quasiment rien. Je sais même pas si le terme il a été inventé à l'époque parce qu'on voulait pas dire action aventure ou action tout court, je sais pas.
Bon, parce qu'on manquait d'aspiration.
Ouais. Voilà, c'est vraiment, ils ont mis plateforme parce que. Voilà, il y a un mec, un joueur, il a mis une plateforme là, et puis il a sauté, et puis il s'est dit que ça serait un jeu de plateforme, mais en vérité, c'est que des jeux d'action, quoi. Ouais. Parce que dans ce cas-là, MotorStorm aussi, c'est un jeu de plateforme. Je veux dire, t'as un tremplin, tu sautes dans tous les sens, tu peux écrabouiller les autres aussi, ouais, comme Mario, machin. Voilà. Tout est plateforme et rien n'est plateforme, quoi. Et voilà, c'était la pensée du jour.
Tout est plateforme, rien n'est plateforme.
Merci de votre compréhension.
Arrêtons le podcast tout de suite.
Nous abordons donc la phase métaphysique de ce podcast.
Exactement. Tu voulais dire quelque chose, Raon ?
Non. Je comprends qu'on puisse dire de Braid que c'est un jeu de plateforme parce
que quand tu
le regardes.
Tu trouverais que ça le cantonnerait, ce serait trop réducteur.
Je pense qu'on ne peut pas, en tous les cas, incorporer cette notion de plateforme à sa définition.
Voilà. Et moi, je comprends qu'on puisse. Dire que Braid n'est pas un jeu de plateforme.
Oh le lourd.
Non, mais bien sûr.
Mais ça, on pourra en parler jusqu'au bout de la nuit sans jamais vraiment progresser.
Ouais, tiens, c'est pas comment aller.
Allez, justement, vous l'avez promis, c'est une sorte de conclusion de ce podcast sur la plateforme, sur ce genre totale mutation. On l'a vu, finalement, le nom qui est en train de disparaître aussi d'une certaine manière. Mm. Et justement, Julo, à juste titre, l'a dit, et c'est aussi ça qui a motivé un petit peu la création, le montage
obsolète,
de ce podcast. C'est Mirror's Edge qui, à mes yeux, représente aujourd'hui l'aboutissement total et définitif de ce qu'était le jeu de plateforme d'il y a quelques
Définitif, justement, parce que ça va continuer. Voilà. C'est la mutation.
Dans le sens où c'est vraiment de la plateforme avec des sauts timés, des précipices, du vertige, etc. Mais vu, on est dedans, on fait corps avec le personnage, on est intégré totalement, encore plus que dans Mario 64, dans un univers libre.
Même la gestion des adversaires, des ennemis, elle est aussi expéditive que dans le Mario de l'époque, où tu sautais une fois en gros sur le truc et c'était fini, basta, on passait à la suite. Dans Mirror's Edge, c'est pareil, c'était expédié le truc tout de suite.
Je suis en train de m'imaginer un truc là, les gars.
Ouais. Le rêver,
je suis en train d'imaginer un Mario Mirror's Edge en fait.
Oui, bien sûr.
Ah, pardon, excuse-moi, j'étais dans mes pensées. Certainement,
c'est le temps que ça arrive au cerveau.
Non, mais je suis en train de me l'imaginer à mort dans ma tête et ça pourrait être un mode du jeu sur PC. Un mode MOD.
Et tu t'entends dire It's me.
Non, c'est pas ça, tu t'imagines les gants de Mario qui.
Avec
qui
des champignons géants. Ouais, Julo.
J'imagine Mario qui escalade des trucs.
Qu'as-tu fumé, Julo, avant de venir?
Non, je sais pas, ça me fait délirer. J'adorerais voir ça.
Mais je pense qu'effectivement, s'il y a un créateur de mode qui sort sur Mirror's Edge,
il y a un modeur qui nous entend.
À quel jeu, les gars?
Je suis prêt à payer pour ça.
Pas cher.
Non, mais c'est vrai que ce serait très intéressant. En tout cas, ce sera très intéressant de suivre un petit peu l'évolution de ce genre, n'est-ce pas, Angel?
Non, je viens de me rendre compte qu'on avait oublié Little Big Planet.
C'était ma conclusion.
T'as cassé le jeu
sur ma feuille.
Pardon.
Mais c'est, parce que c'est intéressant, parce que Little Big Planet, justement, c'est vraiment le jeu de plateforme à l'ancienne, très simple, très classique. Et ce n'en est pas le cœur même du jeu, finalement, c'est pas ça, puisque c'est la création des niveaux. Mais Little Big Planet, c'est encore autre chose. C'est un grand tutoriel de toi aussi, deviens game designer. Donc c'est encore un petit peu différent. Julo, toi qui
as tout dit, effectivement, Little Big Planet sans son mode de création, c'est plus Little Big Planet, c'est qu'un petit jeu de plateforme très sympatoche et tout ça.
C'est Little Planet en fait.
Voilà.
Ah, yes.
Exactement. C'est ce que je disais dans le test. Hein. C'est garder sans le mode de création, ça serait garder le little et laisser le big.
Oh, putain, comment c'est rejoint.
Ouh là là, Julo, tu devrais faire des tests.
Les Juliens sont fantastiques. Ouais, je crois. Messieurs. J'ai l'impression néanmoins qu'on a fait à peu près le tour de ce genre. Vous l'avez vu, hein, vous l'avez entendu en tout cas.
Est-ce que c'est
passionnant,
passionnant.
Moi, je pense qu'il s'est dilué pour abreuver tous les autres.
Voilà. Ouais, c'est ça. C'est
et aujourd'hui, l'héritage de la plateforme se trouve dans toutes les bonnes productions.
Et moi, je pense que le plus grand jeu de plateforme de tous les temps sera Front Gym. Salut.
C'est vrai que
c'est longue trace.
Quand on a parlé de Front Gym, je pensais que t'allais monopoliser la parole, Trace.
Avec, rappelez-vous ce niveau du Batiscaf. Où ça descendait, où ça explosait, niveau qu'a priori il était capable de refaire 920 fois pareil, tellement c'était ultra dur.
Alors là, c'est le jeu qui m'a laissé le plus de je sais pas,
de manettes en morceaux.
Et de manettes cassées, ouais, sûrement.
En tout cas, c'était terriblement dur. Ah ouais, non, mais c'était un grand jeu à l'époque, effectivement.
Est-ce que moi, j'ai pas du tout joué à Little Big Planet. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est difficile?
Alors quoi? De créer un niveau?
Non, de jouer le jeu lui-même.
Pas du tout.
Il
y a juste un petit problème entre. Parce que le jeu est sur trois plans. Il y a trois plans de profondeur.
Ouais, d'accord.
Et il y a pas mal de gens que ça énerve. C'est vrai que c'est assez d'accord. énervant parfois, selon les niveaux. Hein. Ça dépend comment le niveau est construit, mais ça peut être assez chiant en termes de jouabilité.
C'était pour savoir s'ils avaient osé le gameplay justement à l'ancienne, qui était quand même un peu.
Non, hardcore, en fait, là, c'est basé surtout sur le moteur physique. Hein, c'est ça qui est très rigolo. Il y a une espèce d'inertie lunaire des Sackboy. Et dont tu profites avec tout le moteur physique, quand tu as des roues qui tournent et que tu t'accroches et que tu te propulses, etc. Il y a tout un jeu, c'est assez moderne à ce niveau-là. Mais après,
sinon,
niveau de la structure,
reste,
etc., c'est très très simple.
C'est vrai que finalement, l'habileté, le timing, etc., dans Little Big Planet, c'est pas supra présent.
Ouais, on est vraiment dans le jeu bac à sable, au final, c'est le côté bac à sable.
Disons que j'ai l'impression que c'est volontairement un peu approximatif au niveau justement de cette inertie du personnage. Parce que ça ajoute un peu au fun quelque part. C'est rigolo de voir ton Sackboy.
C'est surtout rigolo de voir les autres se faire cramer la gueule. Quoi.
Voilà, et non, mais passer
qui se plantent, qui ratent leur saut,
s'accrocher à un truc, se propulser et finalement rater la plateforme à 2 mm parce que t'as mal jaugé justement cette inertie un peu zarbi et que t'as les autres à côté de toi qui sont morts de rire ou parce que t'as un mec accroché à toi à ce moment-là. Enfin, ça fait partie du fun quelque part.
Et du coup, pour conclure, messieurs, pour vous, ce serait quoi la vision du jeu de plateforme, on va dire en général, alors qu'il s'appellerait plateforme ou pas plateforme, je m'en fiche, hein, mais dans les années à venir, ça va se diriger vers quoi?
Je te dis, moi, c'est Mirror's Edge Mario. Je ne veux rien d'autre.
Cap.
Non, moi je pense que Mirror's Edge justement va contribuer à faire sortir le genre du jeu de plateforme de son ghetto et peut-être réussir à faire des jeux de plateforme classiques.
Il a même fait sortir de son ghetto la vue subjective.
Mais carrément. Voilà. Et voir vraiment ce jeu faire rentrer les. Parce que là, après, il y a des gens qui n'aimeront pas. Ça reste un jeu vidéo. Tous les coups sont dans la nature. Mais on reste dans un trip hallucinant. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen que ce titre soit fondateur pour toute une gamme de trucs à venir. Je ne sais pas ce que ça passera. Mais entre le mode de vue, le gameplay, la sensation de vitesse que tu as à l'intérieur, tu as un petit côté Sonic quand tu commences à prendre de la vitesse sur certains trucs et tout, c'est classe. Moi, je pense que l'avenir, ça peut être ça aussi. Et pas juste la Mario 64 et compagnie.
Traz, ton avis effectivement sur l'évolution à venir de la plateforme?
Bah, c'est un peu difficile, mais c'est vrai que Mirror's Edge, il est là pour montrer que...
Montrer la voie.
Tous les codes peuvent exploser en un milliard de choses différentes. Donc après, bah, je crois que le meilleur est à venir, mais je crois qu'on peut pas vraiment dire aujourd'hui ce que on ça attend, va être plus tard, on n'en sait rien.
On attend avec impatience en tout cas le prochain Mario, surtout après ce qu'il a dit Miyamoto. Après, on pourra définitivement dire Miyamoto est-il cuit ou... Mais je suis très impatient de voir.
Non, mais à mon avis,
Miyamoto,
il va pas changer fondamentalement ce qu'il a déjà fait. Ça m'étonnerait.
Il vient de dire qu'il était un peu.
Il a jamais fait ça, il le fera jamais.
C'est quand même la première fois, effectivement, dans cette interview où il a dit que à la fois Zelda et à la fois Mario étaient améliorables.
Est-ce que Wii Music est un jeu de plateforme?
Wii Music est-il un jeu?
Tu peux sauter dessus à pieds joints, ouais.
Ouais. Ou alors tu te jettes par la fenêtre.
Moi, je rêve d'un jeu de Formule 1 où on pourra écraser Max Mosley. Et voilà.
Ça, c'était bon. Voilà. Angel.
Moi, je peux plus rien dire après ça. Je sais pas.
Et ben dans ce cas-là, ce sera Aaron qui conclura ce podcast.
Ok, bah écoute, moi je ne pense pas forcément à une évolution du jeu de plateforme en lui-même. J'aimerais pas voir disparaître ce qu'on a connu et qu'on a appelé le jeu de plateforme, que ça soit en 3D ou en 2D, parce que je pense qu'il y a toujours moyen de faire des jeux rigolos, même s'ils sont pas forcément novateurs. Et que en termes d'avenir, c'est un terme qui devient forcément obsolète en soi, quoi. Voilà.
Eh ben en tout cas, vous l'aurez compris, hein, la plateforme est un genre mutant, un genre qui s'est insinué comme ça un petit peu dans tous les genres justement, et c'est ce qui le rend passionnant, intéressant. C'est un genre qui, depuis maintenant plus de quasiment 30 ans, ne cesse d'évoluer. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la plateforme qui évolue. On parlait de timing hein, dans la plateforme. Bah, Gameblog aussi, je joue avec un nouveau timing. Vous allez voir. Alors, vous inquiétez pas.
On reste sur la plateforme Internet, par contre.
On reste sur la plateforme Internet. Mais si, par exemple, ce week-end, il y avait quelques petites coupures, si, par exemple, vous voyez que le site est en maintenance, ne vous inquiétez pas. Tout est normal. Tout marche comme prévu. On vous avait prévenu. Hein, Gameblog is evolving. Un peu comme la plateforme. Maintenant, rendez-vous dans... Allez, J-4. 4. Voilà. Ouais, allez, J-4 avant 4,5 avant un beau changement hein, de Gameblog. On vous l'avait promis, ça y est, il arrive. Il est là, regardez bien le site. Il y aura quelques indices dans les jours à venir qui vous aiguilleront, vous mettront sur la voie. Allez, on vous embrasse. C'était la fin de ce podcast 76. Dernier podcast d'une époque d'ailleurs, sur la plateforme, mutation ou disparition. Je pense qu'on a bien répondu. Vous, maintenant, à vous dans les forums, de débattre, si vous avez des bons souvenirs de certains grands jeux de plateforme qui ont bercé vos enfances, eh bien, n'hésitez pas. Continuez le débat. Quelle est pour vous l'évolution à venir du jeu de plateforme? Et bien maintenant, c'est à vous de nous le dire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Avec
ici ou ailleurs.
Oui,
vous verrez. Hein, allez, rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, bah, jouez bien. Puis surtout, portez-vous bien. Ciao.
Bye bye.
Cheers. Salut.